Ok, bah moi donc je suis Pauline, vice-présidente de l'association. Je m'occupe plutôt de tout ce qui est logistique. Avant ça, j'ai fait toutes mes études à Tours, en fait, licence droit langue, et puis master 1 droit privé droit de la santé. Voilà.
Bonjour, donc moi c'est Ditouin, donc je suis le président de l'association du M2 droit de la santé. J'ai un parcours juridique aussi, donc j'ai fait toute ma scolarité, enfin toute l'université à Tours, un M1 droit public et droit de la santé, et donc cette année le M2 parce que j'avais un intérêt, on va dire, quand même pour le droit, mais aussi pour garder une petite dimension scientifique et puis combiner les deux dans le master. Je me suis pas mal retrouvé, et donc cette année on a une promotion qui nous permet de vraiment avoir un très vif panel, une très bonne représentation, on va dire, de différents parcours de la part de tous les étudiants.
Bonjour, moi c'est Clément. Comme mes camarades, j'ai choisi droit de la santé parce que toutes les matières un peu relatives à l'humain m'intéressaient. Après ce master, je destine un métier de l'avocature. Dans l'association, alors je suis pas président comme mes deux collègues. Je vole un peu partout là où on a besoin, comme mes autres collègues qui sont de simples membres.
Ok, alors par contre, est-ce qu'on peut définir concrètement vers quoi ça mène ce master? T'as parlé de droit dans la santé, c'est ça en fait? C'est le domaine juridique dans la santé, c'est ça? À tous ces métiers autour de cette
c'est ça,
sujet-là.
Il faut savoir qu'il y a beaucoup de débouchés avec ce master, donc qui sont à la fois, il y a une distinction entre le droit public et le droit privé, et là pour le coup c'est un master assez transversal, c'est-à-dire qu'on est amené à toucher les deux, et donc ça propose donc des formations pour être juriste dans des établissements de santé privés, publics, aussi dans tout ce qui va être la dimension assurance au niveau des professionnels de santé qui ont l'obligation de s'assurer. Il y a également donc le métier d'avocat ou même de conseil, de juriste conseil qui sont ouvertes. Les postes de cadre aussi en hospitalier et même de directeur d'hôpital. Donc c'est tout ce qui va ressembler, s'approcher de près ou de loin de la santé, c'est et du droit, c'est des professions qui sont ouvertes.
Alors, est-ce que vous pouvez pardon, maintenant parler de l'association? Elle est née en 2012, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique de ce que c'est cette association et comment elle est née? Ordonnance et prescription, hein, d'ailleurs, je rappelle le nom, évidemment. Qui se lance?
Eh bien, c'est nos prédécesseurs qui, justement, dans un but d'information, hein, puisque le droit de la santé, comme vous avez bien fait de nous questionner au départ, ça interpelle, on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on évoque le droit de la santé. Donc, nos prédécesseurs, ils ont créé cette association afin de pouvoir mener des projets d'information tels que le nôtre, la vaccination obligatoire. Il y a eu l'euthanasie, il y a eu quoi l'autre l'année dernière, c'était sur les produits défectueux.
C'était les médicaments, ouais. Les médicaments, ouais.
Voilà, historiquement, l'association, donc elle est pas très vieille déjà, mais elle a toujours eu cette optique d'information pour aider les gens à y voir un peu plus clair sur des sujets de santé liés aux problèmes juridiques.
Et alors, tu me disais tout à l'heure, Titouan, hors antenne, que finalement, l'association regroupait tous les étudiants du master, c'est ça?
C'est ça, le but, c'est véritablement de donner en fait une dimension associative aux membres du master, parce que le master en lui-même n'est pas une entité avec laquelle on peut véritablement mener à bien des projets. Avec l'association, on a une personne juridique véritable, donc qui est constituée, et qui nous permet de mener à bien des projets, donc comme la journée d'études, et aussi d'avoir de participer au rayonnement, à la promotion de notre master au sein de toutes les antennes universitaires, pour avoir un contact, une personne à qui parler, à qui s'adresser, quand on ne connaît pas vraiment les membres du master, quand on est totalement extérieur, mais qu'on est intéressé, on a la possibilité de s'adresser à cette association pour information, promotion, diffusion, etc.
Alors, évidemment, vous êtes ici dans le studio de Radio Campus Tours pour parler aussi de cette journée qui aura lieu le 25 janvier sur les vaccins, sur l'obligation de se vacciner, ou en tout cas certains vaccins. Est-ce qu'on peut maintenant parler de ça? Est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, évidemment, c'est un sujet large, mais on va peut-être commencer par la première question. Est-ce que vous êtes vacciné, vous? Et si oui, contre quoi? Parce qu'évidemment, il y a le DT polio de mémoire est encore obligatoire, mais finalement, c'est le seul qui est obligatoire. Ah, question piège.
Oui, c'est ça. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, c'était les seuls qui étaient obligatoires. et donc maintenant on a 8 en plus.
Oui, effectivement, depuis 1er janvier 2018, ouais. Mais donc, ça, alors pour le coup, c'est pour les nourrissons. Je crois que j'ai la liste là. Il y a la coqueluche qui se rajoute, l'hépatite B notamment, méningocoque, etc., pneumocoque.
Mm-hmm. C'est ça.
Ouais. Tout ça, c'est des choses qui se rajoutent pour les nourrissons à partir du 1er janvier 2018. Alors justement, vous, est-ce que vous savez déjà contre quoi vous êtes vaccinés, vous trois?
Ouais, je pense qu'on va être des mauvais élèves là. Hein. le DTP, ça c'est sûr. Après, moi j'ai le papillomavirus et un vaccin contre la méningite, je ne sais plus lequel, mais c'est à peu près tout ce que je sais.
Tu dis mauvaise élève, ça veut dire que t'en as pas assez? T'es pas assez vaccinée? Trop?
Je pense que je suis pas assez au courant de mes vaccinations plutôt et que je devrais plus m'en informer.
Ok.
En ce qui me concerne, j'ai DTP aussi, ça c'est sûr. Après, au niveau des vaccinations qui étaient auparavant très fortement recommandées et qui passent maintenant obligatoire, j'en ai aucune, c'est sûr. J'ai eu fait la grippe une fois, c'est mon seul souvenir, mais sinon au niveau des vaccinations c'est pareil, c'est pas quelque chose auquel on pense forcément. On se dit qu'on est dans une société où il y a la bonne santé de manière générale, que c'est des maladies qui sont loin, arriérées, auxquelles on pense pas trop dans d'autres pays. Donc c'est vrai qu'on oublie un petit peu, on n'a pas ce réflexe de s'informer auprès des médecins, de savoir si c'est des maladies qui pourraient revenir, et donc par conséquent on n'a pas le réflexe de se vacciner, ou en tout cas à minima de s'informer là-dessus.
Peut-être qu'on l'a si on voyage aussi. C'est vrai que le voyage, dans certains pays notamment, implique aussi des vaccinations supplémentaires.
Ah, c'est pour cette raison, par exemple, j'ai en plus du DTP la vaccination contre l'hépatite A. C'était une vaccination obligatoire pour celui qui veut quitter le territoire français. À part ça, ouais, non, j'ai pas. En tout cas, j'en ai pas 11 hein, comme les futurs vaccinés.
Alors justement, en termes de droit, est-ce que c'est... est-ce que c'est pas un peu liberticide d'obliger des parents à vacciner leurs enfants maintenant contre une dizaine de maladies finalement, parce qu'on est passé de 3 avec le DT polio jusqu'à, si je les compte bien, on devrait être à une dizaine. C'est quand même
11 en tout, oui.
11 en tout, pardon. 11, effectivement, c'est assez conséquent. Du coup, est-ce qu'on peut obliger en termes juridiques des gens à vacciner leurs enfants?
Bah, la question, c'est une question morale. C'est à partir du moment où c'est dans la loi, on peut les obliger parce que c'est écrit dans la loi. Est-ce qu'on considère que la loi est juste parce que on l'a fait justement cette loi et qu'on a dit on allait vacciner, obligatoirement les nourrissons? Là, on peut se poser la question. Cela dit, ces lois ont été votées par un gouvernement et un parlement qui a été élu démocratiquement. Donc finalement, c'est la continuité des choses et l'expression du public. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en tant que juriste. C'est comme ça que je perçois les choses. Alors, dire est-ce que rendre obligatoire c'est liberticide? Bah, forcément, on atteint la liberté si on rend certaines vaccinations obligatoires.
Mais surtout, est-ce que c'est pas dérangeant le fait que ce soit sur des nourrissons, dans le sens où évidemment il peut pas exprimer ses idées, le nourrisson, et ça concerne pourtant son corps? Je veux dire, c'est quelque chose, est-ce que c'est pas une décision qui devrait se faire plutôt à partir de la majorité, ou en tout cas quand on est apte à comprendre tout ça?
En ce qui concerne les choix médicaux pour les enfants, donc pour les mineurs, ça date pas des vaccinations, c'est-à-dire d'il y a 3 semaines pour les vaccinations obligatoires. Le mineur, il dépend de ses parents en termes de traitement médical, donc c'est pas nouveau. Si on s'insurge des vaccinations obligatoires en invoquant l'argument que les mineurs, les jeunes nourrissons, ne disposent pas de leur corps librement, on va leur répondre que c'est pas nouveau et qu'il aurait fallu se réveiller avant.
Alors justement, la journée que vous organisez, on y reviendra évidemment plus précisément en deuxième partie d'émission, mais elle a comme nom entre devoir collectif et liberté individuelle, en parlant évidemment des vaccinations obligatoires. Alors en quoi c'est un devoir collectif, peut-être au niveau de l'information finalement, c'est d'être informé des maladies et après faire le choix de se vacciner ou pas, c'est peut-être ça le sens de ce mot, non? Enfin de ce terme.
Je suis pas sûr qu'on l'avait perçu comme ça exactement, à vrai dire. C'est une sorte de sous-titre qu'on a donné à notre journée d'études, c'est-à-dire pour informer un petit peu plus en profondeur, parce que les vaccinations obligatoires, c'était trop général. Et c'est véritablement cette question de discuter, et pour en revenir à la question que tu avais posée avant, de savoir est-ce qu'on est sur un enjeu tel que tout le monde doit se vacciner pour protéger les autres, donc est-ce qu'on sacrifie un petit peu de sa liberté dans l'optique de protéger l'ensemble de la population, ou est-ce qu'on laisse la possibilité à chacun de se vacciner ou non, sachant qu'en faisant ça, la vaccination perd de son intérêt, puisque une campagne de vaccination, pour qu'elle soit efficace, c'est 95% de la population qui doit être vacciné. Et là, on a notamment totalement éradiqué la maladie. Donc c'est là tout l'enjeu de la journée d'études, et on n'a pas la prétention, nous, en tout cas ici ce soir, d'y répondre. En revanche, on a fait cette journée d'études pour que des personnes puissent s'y rendre, en débattre, écouter ce que disent des intervenants professionnels, et ensuite se créer leur propre opinion, leur propre avis sur la question.
Oui, évidemment, c'est là où peut-être le fait, en grandissant, on peut aussi rajouter des vaccins si on en ressent le besoin, si on en a envie, si on voyage, on l'a dit aussi. Ce qui pose aussi le problème du vaccin chez l'adulte, si c'est aussi essentiel pour sa santé ou voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, mais l'adulte a aussi son choix dans le vaccin.
Bien, à partir de la majorité, oui, c'est certain, on est libre de son corps, et donc là, l'imposition de vaccinale serait peut-être plus difficile à mettre en place. Après, il faut savoir que juridiquement, il y a tout un ensemble de processus, hein. Il y a quand même l'élection démocratique, il y a la présence de deux chambres pour voter les lois, on a le Conseil constitutionnel qui va s'assurer que l'atteinte à une liberté individuelle n'est pas trop grande au regard de l'enjeu collectif, etc. Donc il y a toute cette dimension de sécurité juridique qu'il ne faut pas non plus oublier. Après, sur la question de savoir est-ce que c'est mieux d'avoir un vaccin jeune, est-ce que c'est mieux de l'avoir tôt, ça, c'est des questions qui relèvent essentiellement du médical, du scientifique. Donc c'est vrai que nous, en tant que juristes, on n'a pas la compétence là-dessus. Mais encore une fois, on est là pour la promo de la journée d'études. C'est justement inviter des médecins et des scientifiques pour qu'eux puissent répondre à ces questions, puisqu'évidemment, ils ont la compétence et la qualification nécessaire pour ça.
Justement, on peut parler du volet juridique. Comment on fait pour faire passer un nouveau vaccin? Est-ce qu'il y a déjà, il faut peut-être contacter l'OMS? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des études qui sont faites avant, vous savez ou pas?
Alors, on a eu la chance de pouvoir interroger dans la préparation de notre journée d'études un certain nombre de professionnels qui ont pu, ou d'universitaires qui ont pu nous aider à avoir un début de réponse, un semblant de réponse sur ces questions-là, puisque effectivement, on n'est pas surqualifié, on est encore étudiant. Sur ces questions-là, il faut savoir que voilà, un vaccin, on ne le lâche pas librement comme ça dans la nature. Il y a effectivement tout un tas de recherches, des recherches médicales, scientifiques qui sont très encadrées juridiquement. Ça fait partie de nos de ce qu'on apprend dans nos cours en M2 droit de la santé. Donc il y a toute une recherche qui est effectivement très encadrée. Il y a tout un tas de processus médicaux, scientifiques, juridiques qui entrent en jeu et qui seront détaillés. Ça fait partie, c'est une des sous-parties qui sera effectivement évoquée lors de notre journée d'études.
Par vos soins ou c'est...
Non, du tout.
C'est par des invités à chaque fois.
Par des invités, je peux même vous dire.
Par une ancienne étudiante du Master 2, justement, Maître Salia Remoura.
Trop vite. Nous sommes toujours avec Pauline Clément et Titouan qui sont avec nous aujourd'hui pour parler vaccin et pour parler d'une journée d'études et de conférences. Alors, on va définir un peu tout ça qui s'appelle les vaccinations obligatoires. Décidément, je vais y arriver. Entre devoirs collectifs et liberté individuelle. Une journée qui aura lieu le jeudi 25 janvier 2018. Est-ce que vous êtes toujours avec moi?
Oui.
Oui, toujours.
Yes. Alors, je vous propose un petit quiz. On a parlé de choses en antenne, on y reviendra peut-être après le quiz, mais d'abord, c'est l'heure des petites questions sur un sujet, donc la vaccination, puisque c'est le thème de la journée que vous organisez. Et je vais lancer le petit jingle qui peut maintenant partir. C'est parti. Alors, première question. Est-ce que vous savez d'où vient le mot vaccination?
Pas précisément, mais je tente très bien un mot grec.
Alors, grec, je sais pas vraiment étymologiquement, je t'avoue, tu me poses une colle. Mais en fait, ça viendrait d'un médecin qui, à l'époque, au XVIIIe siècle, il a constaté une maladie bénigne chez la vache qui s'appelait, enfin, qu'il a donné comme nom, je dis n'importe quoi, la vaccine. Et en fait, le mot vaccination vient de ce mot et de ce médecin qui a découvert cette maladie. Deuxième question, qui est considéré comme le père de la vaccination?
Ça va, c'est Pasteur, ouais. Avec la découverte du vaccin contre la rage, si je dis pas de bêtises.
Exactement, c'est Louis Pasteur, donc un Français. Et du coup, troisième question, quand a-t-il inventé ce fameux vaccin contre la rage?
1912.
Ah non, c'est un peu avant.
Ah. 1906 peut-être.
Toujours avant.
Ah, 1902.
Encore avant. Mais vous êtes pas loin, hein, vous êtes pas loin. Ça se rapproche.
En 1896.
Ah, bah ça se rapproche encore. On est en 1885, le 6 juillet, très précisément. Et pour être, pour la petite anecdote, hein, si on peut parler d'anecdote, il a traité un enfant de 9 ans, un berger, qui s'était fait mordre 14 fois par un chien enragé. Voilà. Et il lui a sauvé, il lui a inoculé en fait la rage en version diminuée et beaucoup plus saine, on va dire ça comme ça. Et l'enfant a guéri. Quatrième question, est-ce que vous pouvez me dater les premiers vaccins contre la grippe ?
Une quarantaine d'années. La date exacte.
Ouais. Ah, c'est plus tôt. Ah ouais. Alors peut-être que le vaccin contre la grippe moderne, c'est possible qu'il soit qu'il date des années 70, mais il y a eu déjà des essais dans les années 30, en fait, ça date déjà des années 30, et c'est un médecin américain qui a mis au point ces vaccins et les a inoculés, enfin qu'il les a donnés plutôt aux soldats américains qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ça leur a servi en tout cas à éviter la grippe. Et ce même médecin qui s'appelle Jonas Salk a inventé le premier vaccin, ou en tout cas a créé le premier vaccin contre la poliomyélite, donc cette fameuse polio sur laquelle on est tous vaccinés. En 2015, alors on parlait de la rougeole justement hors antenne, est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes dans le monde sont décédées de la rougeole ?
Alors en 2015, j'ai pas la date, non. Je sais que très proche de nous, il y a eu des morts en 2016.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une crise assez...
C'était en Roumanie.
Enfin, une épidémie aussi en France.
En France, à Bordeaux.
À Bordeaux, effectivement.
Début d'année, ouais. Enfin, fin d'année 2017.
Ouais. Alors, le chiffre est intéressant. Évidemment, il est dur à trouver. J'ai pas été très sympa sur cette question. Il y a 134 000 personnes qui sont décédées et qui sont mortes en 2015, de la rougeole. En revanche, en 2000, c'était 651 000. Donc pour le coup, le vaccin, en grande partie évidemment, le vaccin de la rougeole a permis une baisse de 79% de la mort en fait et du décès lié à la rougeole. Justement, ça fait la parfaite transition, puisqu'on parlait hors antenne de ces vaccins, si on était plutôt contre ou pour. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes plutôt favorable à la vaccination contre tout genre de maladies, et plus particulièrement contre ces 8 nouveaux vaccins qui sont maintenant obligatoires pour les nourrissons ?
Avant toute chose, je voudrais juste rappeler que ça, ce sont des opinions qui nous concernent, qui
oui,
nous engagent que nous.
Effectivement.
Et qu'elles n'engagent ni la promotion de notre master, ni l'association, ni la journée d'études en elle-même. Chacun a son opinion propre. Et après, la journée est ouverte à tout le monde dans tous les cas.
Effectivement.
Donc, en ce qui me concerne, donc, mon opinion personnelle n'est pas hyper arrêtée. Disons que j'ai tendance à croire aux bienfaits, aux bénéfices de la vaccination. Pour autant, je reste sceptique sur certaines choses, comme est-ce qu'on est sûr vraiment que tous les composants sont strictement nécessaires et ne provoquent pas plus de risques que de bénéfices. Et est-ce que effectivement, il n'y a pas des risques de conflits d'intérêts ou peut-être même de corruption, je ne sais pas, qui pourrait influencer les décisions de certains gouvernements. À ce titre-là, je suis sceptique, je suis pas complotiste, je veux juste m'en assurer. J'espère que dans la démocratie dans laquelle on est, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, disons que je pense qu'il y a plus d'avantages que de risques, après, à voir si au moins tout est bien vérifié.
Clément, Pauline, je ne sais pas qui veut me donner son point de vue.
Pour ma part, moi je suis pour. Je pense que la vaccination a plutôt fait ses preuves et que les bénéfices de santé publique sont assez importants. Et puis j'ai relativement confiance. La littérature scientifique est assez riche à ce sujet. Donc je me dis que si le gouvernement décide d'imposer ces 11 vaccins en tout à des nourrissons, c'est que c'est sûr. Et qu'il y aura des bénéfices intéressants et importants.
Alors tu parles de confiance, c'est intéressant finalement, c'est ça aussi le vaccin, c'est avoir confiance. Et dans la médecine de façon générale, on parle souvent de l'effet placebo, etc. Mais il y a une question de confiance aussi pour que ça marche, pour guérir des maladies. Et puis aussi par rapport au vaccin. Clément, je t'ai coupé la parole.
Alors c'est vrai que tout à l'heure Titon évoquait, je veux pas crier au complot, mais certains y croient quand même au complot par rapport à ces laboratoires, ce gouvernement. Faut savoir que c'est vraiment j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Le gouvernement, il est pas là pour rendre tout le monde malade, évidemment. Alors on peut se poser la question, peut-être que il va s'enrichir. Bon, qui va s'enrichir? Les lobbies, bon, on sait pas trop. Le système de santé français, il est fait à telle manière que que si tout le monde tombe malade et si les vaccins finalement vont rendre les gens plus malades, c'est la fin de la sécurité sociale parce qu'il n'y aura plus d'argent. On est vraiment sur un équilibre au niveau de notre économie de santé et on n'a vraiment aucun intérêt, en tout cas les personnes qui sont chargées de tout ça, à diffuser un produit qui va augmenter notre taux de mortalité, notre taux pour nous rendre malades, quoi, notre faiblesse, notre constitution. De manière générale, moi je suis assez pragmatique quand j'essaie de répondre à cette question de la vaccination obligatoire, je regarde les chiffres. Alors c'est assez basique hein, comme raisonnement, mais finalement c'est le seul que j'ai comme personne non scientifique. La grippe, on en parlait tout à l'heure, sur un plan vaccinal de 40 ans en France, c'est pour ça que j'ai dit 40 ans pour la date de création de ce vaccin. Sur 40 ans en France, elle a été divisée par 10, le taux de mortalité avec la grippe. C'est quand même assez significatif. T'as évoqué aussi la rougeole. Combien de personnes ont été sauvées en 10 ans, c'est significatif aussi. Pour ces raisons-là, j'aurais tendance à être pour, et en tout cas à ne pas donner de mauvaises informations, car c'est ça. Chacun peut défendre son point de vue, être pour ou contre, mais il faut vraiment se garder de donner des informations qu'on ne maîtrise pas. Et là, je mets vraiment en garde contre la désinformation qu'on retrouve énormément sur les réseaux sociaux, parce que les gens, ils aiment bien désinformer, mais surtout quand on les voit pas. Ce qui va être intéressant pour notre journée d'études, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, et on sait déjà qu'il va y avoir des gens qui sont anti-vaccins. Ça va être intéressant de pouvoir voir comment les gens communiquent vraiment les pour et les contre, sans se cacher derrière un écran, et voir comment confronter à certains arguments, certaines réponses vont se dégager.
Justement, parlons-en de cette journée. Est-ce que vous pouvez me dire déjà comment ça va se passer? C'est toute la journée, hein, déjà, on est d'accord, le 25 janvier 2018, hein, pas besoin de rappeler la date. Expliquez-nous.
Alors, si tout se passe bien, elle commence à 9h et elle se terminerait normalement grand maximum à 17h. Concrètement, au niveau de l'organisation, vont se succéder une série d'intervenants que l'on a contactés nous-mêmes, que l'on a invités, à qui on a demandé d'intervenir sur un thème spécifique. C'est des interventions d'une demi-heure par personne. On aura deux interventions conjointes sur des thèmes donc bien précis. Il y a des professionnels médicaux, des professionnels juridiques, également des universitaires, des domaines scientifiques, médicaux et juridiques. Et donc je laisse Pauline présenter les différentes parties succinctement.
Oui, alors on a décidé de diviser cette journée en quatre parties. Donc la première partie, le matin, ce sera une introduction en fait sur le vaccin, ses composants, son fonctionnement. Et puis ensuite, on abordera la controverse qui entoure la vaccination. Enfin, après le déjeuner, on parlera de la nouvelle politique vaccinale. Et enfin, pour la dernière partie, on parlera du contentieux lié à la vaccination. Donc là, bien plus juridique.
Et je rajoute juste qu'il y a dans l'après-midi donc une table ronde qui consiste en un débat d'abord entre les intervenants eux-mêmes sur des questions qu'on leur a soumises. Et ensuite, on laissera évidemment une petite partie de cette table ronde ouverte à l'audience afin que chacun puisse répondre quelque part à ses questions, mais aussi émettre un avis qu'on espère constructif et basé sur des faits pertinents ou c'est des arguments défendables afin de faire vraiment vivre le débat pour tout le monde.
Il faut aussi préciser que la journée est gratuite, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est une volonté de laisser la porte ouverte à tout le monde dans la gratuité ?
Ben oui, toujours dans ce but d'information, hein, c'est plus facile déjà pour les gens de venir si c'est gratuit, donc on a réussi à obtenir des financements qui nous ont permis de rendre la conférence gratuite, donc notre volonté première a pu être faite grâce à ça.
Je précise qu'au niveau des financements, notamment des subventions qu'on a reçues, on n'a absolument pas cherché à avoir des subventions, par exemple, d'éventuels laboratoires, représentants de marques, etc.
Vous êtes indépendant.
Voilà, le but, c'est d'être indépendant, parce que l'objet de cette journée d'études, c'est de présenter les vaccinations obligatoires sous un œil totalement objectif et, on va dire, neutre, dans la mesure où on n'est pas là pour faire la promotion des vaccins à 100%. On n'est pas non plus là pour dénigrer la vaccination. On est là pour en discuter vraiment sur des bases stables. Donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et la seule contrainte qu'on demande, c'est de s'inscrire. Donc pour ça, il y a une adresse mail. Il suffit juste d'envoyer un mail, de préciser le nom, le prénom, la qualité et le nombre de personnes. Donc l'adresse, c'est irji.com. Secrétariat, merci Pauline, sans accent, @univ-6tour.fr.
Et c'est vrai, tu fais bien de le mentionner, finalement les intervenants seront aussi partagés sur la question, il y aura un vrai débat par rapport à, aux vaccinations, et je le répète aussi, le titre finalement de cette journée, c'est les vaccinations obligatoires entre devoirs collectifs et liberté individuelle, voilà, ça sera le jeudi 25 janvier. Dernière petite question à vous poser, est-ce que vous organisez aussi d'autres journées à l'année? Est-ce qu'il y a d'autres journées qui sont prévues pour 2018?
En ce qui nous concerne, non, parce qu'il faut savoir qu'on a une formation qui est très serrée. Cette année, on a dû organiser la journée d'études dans 4 mois comparé aux années d'avant où ils avaient la chance de pouvoir le faire en 5. Donc, c'est comme l'a dit notre professeur, notre directrice de master, c'est vraiment un but professionnalisant pour nous, c'est-à-dire qu'on est en toute indépendance, libre, presque autonome, enfin totalement autonome. On a juste des comptes à rendre aux directrices qui vérifient juste que notre travail va dans le bon sens. Mais on est totalement libre, donc on s'en organise de la manière qu'on souhaite afin de faire 7 journées d'études. On en fait une par an, donc comme l'an prochain on va repasser le flambeau de l'association à nos futurs camarades, générations d'après, ce sera à eux d'organiser leur propre journée d'études sur le thème qu'ils auront choisi également. Donc nous, en ce qui nous concerne, c'est la seule qu'on fera cette année.
Oui, puis j'imagine c'est quand même assez compliqué, assez dense de faire venir tous ces invités pour cette journée, non? Ça a été comment niveau organisationnel justement?
Alors on s'en est bien sorti parce qu'aujourd'hui on est prêt, heureusement. Faut savoir quand même que à titre personnel, mais pour la majorité des gens, on n'avait jamais organisé une telle journée. Donc ça demande beaucoup de contraintes sur son temps personnel, aussi sur son temps de travail. Pour ça, on a eu la chance de compter sur une équipe très dynamique, très soudée. Faut savoir qu'on est que 18, donc c'est pas énormément, et donc ça nous a permis véritablement de bien se partager les tâches. Donc forcément, il y en a toujours qui ont un peu plus d'entrain que d'autres, mais on a toujours veillé à essayer de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, de se partager les tâches suffisamment pour que personne ne donne vraiment trop par rapport à d'autres. Et au niveau de l'organisation, donc du coup, sur un plan plus pratique, il y a le moment où on débat d'abord de savoir sur quel thème on va le faire. Ensuite, une fois qu'on est fixé là-dessus, il faut commencer à rechercher des financements, il faut commencer à rechercher des intervenants, donc c'est des contacts de professionnels. On a essuyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus, donc des professionnels qui n'avaient pas toujours le temps, il faut les comprendre. Mais comme on dit souvent, on est meilleur dans l'urgence, et donc sur la fin, on a vraiment eu... On a vraiment eu le coup de boost qu'il fallait, on a eu les réponses qu'on souhaitait et on a pu tout organiser dans les temps.
D'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, on aurait peut-être dû, hein, grosse erreur de ma part, c'est à la faculté de droit, et oui, il faut aussi dire le lieu. L'adresse, vous me dites si je me trompe, évidemment, c'est 50 avenue Jean Portalis, à Tours, évidemment.